Bonjour, assalamu alaikum, shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue au Club de la Presse de ce jour. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place sur les antennes de Canal FM, de Radio Lumière, de Radio La Paix, de Radio Centrale FM, de Sama FM, de Daoul, de Courtoisie, ça c'est au Togo, et dans le monde entier, Radio Le Bénin, Ebene Radio, toutes les autres applications, même la chaîne YouTube, par lesquelles vous êtes en communion avec nous au jour le jour. Nous saluons Monsieur Vondoli, un jeune homme de près de 85 ans qui est passé chez nous ce matin pour nous encourager et nous indiquer également quelques pistes pour le Club de la Presse, notamment attirer notre attention sur certaines préoccupations dans le monde de l'enseignement privé laïque au Togo. À la technique, Vitogbe Koku Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. Premier confrère déjà à nos côtés, Harry Miaou Tchanyaou, bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à toutes et à tous.
Merci. Le directeur du journal Nouvelle Opinion, fraîchement sorti. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques articles. Nous attendons deux autres confrères. Mais déjà, Harry Miaou, nous pouvons partager la pensée du jour qui dit ceci. Les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Encore une fois, les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Cela t'inspire quoi, Achou, Harry Miaou?
Oui, ça m'inspire que, en réalité, c'est le travail qui fait l'homme. Voilà. Et quand vous travaillez et de votre sueur, vous gagnez le pain au quotidien, vous en êtes fier et vous sentez être digne. Parce que même la Bible, même le Coran, nous ont recommandé au travail. Et c'est après le travail que nous allons nous affirmer dans notre dignité. Donc, les mains qui sont sales à partir du travail nous donnent la fierté d'être nous-mêmes, de ne pas ressembler à des gens qui restent et qui commandent au quotidien et qui sont
dignes. La Bible nous enseigne que nous allons devoir manger à la sueur de notre front. Le Coran en dit de même. Harry Miaou, tu te rappelles la devise du Togo ?
Travail, liberté, patrie.
Voilà, c'est par le travail que nous allons consolider notre liberté et bâtir la patrie. 2 octobre et depuis hier, nous avons entamé le quatrième et dernier trimestre de l'année 2023. Octobre, novembre, décembre. Et puis nous entrerons dans l'année 2024. Prions que Dieu nous bénisse. Mais c'est également le mois que le Togo et l'UMOA ont décidé de dédier à la promotion de la consommation locale. Également le mois du rosaire pour les chrétiens catholiques, avec d'abondantes prières mariales sur la base du chapelet. Et puis c'est également octobre rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. L'une ou l'autre thématique apparaîtra au jour le jour au Club de la Presse, selon ce que la presse nous indiquera. Et j'ai parcouru les journaux, j'ai écouté Harry Miaou, ça va être une émission tous azimuts. Nous allons embrasser bon nombre de sujets de proximité. Mais commençons par l'année scolaire, la rentrée qui est déjà à sa deuxième semaine. Mais avant les débats, cette petite réflexion que nous avons intitulée « Le prix de la négligence, de l'indifférence et de la complaisance avec l'inacceptable ». Le 27 septembre dernier, la petite localité de Ngobo, dans la commune Blita 3, jusque-là inconnu de tout le monde, sauf de ses habitants et de ses ressortissants, eh bien, Ngobo était subitement devenu le centre de l'actualité. La cause, le pan d'un mur de l'école primaire publique venait de s'écrouler, causant la mort sur le champ de deux pauvres écoliers et la blessure de leur instituteur. Les images de ce drame n'ont pas tardé à circuler en boucle sur les réseaux sociaux et dans les médias, suscitant colère, émotion, désolation et des commentaires de toutes sortes. Le gouvernement en personne a sorti un communiqué irrelatif. On apprend dans ce communiqué que le préfet de Blita, le maire de la commune Blita 3, le directeur régional de l'éducation de la région centrale, le chef d'inspection Blita Ouest, les services déconcentrés de la sécurité, de l'action sociale et de la protection civile se sont précipités sur le lieu du sinistre pour aller jouer aux médecins après la mort. On peut présager que nombre de ces autorités n'ont jamais mis le pied à Ngobo avant ce sinistre. Et le communiqué du gouvernement indique également que le gouvernement est instruit pour procéder aux travaux de construction et de réhabilitation nécessaires dans cette école de Ngobo et globalement dans tous les établissements scolaires de notre pays. L'intention du gouvernement est certes louable, mais n'aurait-on pas dû prévenir le drame survenu à Ngobo? Deux jours avant ce drame à Ngobo, le ministre Kokoroko des enseignements primaires et secondaires de la formation professionnelle avait sorti un communiqué pour annoncer la fermeture provisoire pour travaux du lycée de février 6 à Agbalepedo à Lomé. Mais qu'est-ce que cela aurait été si un bâtiment du lycée d'Agbalepedo s'était écroulé sur les plus de 1500 élèves de ce lycée? Mais combien d'écoles de tout degré qui portent potentiellement le risque du drame qui est survenu à Ngobo? Il est vrai que le secteur de l'enseignement et de l'éducation absorbe une bonne partie du budget du pays, notre pays, annuellement. Mais les besoins sont encore énormes sur le terrain, notamment en termes de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires qui assurent la sécurité et un minimum d'aisance aux apprenants et aux encadreurs. L'avenir du Togo passe par une jeunesse bien formée et en toute sécurité. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, disons-nous souvent. Et le journal Mega Info paru aujourd'hui écrit justement sur le sujet. Deux apprenants tués dans l'effondrement d'un mur de fortune à Ngobo, le gouvernement compatit et recommande. Harry Miaou, avant toi, accueillons Didier Assogba qui vient de nous rejoindre. Bonjour Didier.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour Alain et Harry Miaou, Tianiaou.
Merci de nous avoir rejoints avec les dépêches, les articles de Togo Breaking News que nous allons également reparcourir et commenter. Mais Harry Miaou, voilà ce drame qui est survenu dans cette petite localité que personne ne connaissait, en tout cas moi je ne connaissais pas, mais qui est devenue la localité maintenant connue du tout. Avec ce drame, deux élèves qui avaient quitté leurs parents pour l'école et qui sont revenus, ils ne sont jamais revenus. Ils ont été enterrés parce que ayant trouvé cette mort brutale là dans l'effondrement de ce pan de mur.
Oui, ça c'est vrai, vous avez bien fait de dire que vous ne connaissez pas Ngobo. Moi, je connais Ngobo. Ah. Enfant d'enseignant, mon feu père a fait le village, il a fait Soukoko. Je connais très bien Ngobo, je connais les Dikbelo, je connais pratiquement beaucoup de villages de cette zone de la commune 3 de Blita. Effectivement, c'est des zones oubliées. Vous avez vu, les réseaux sociaux ont fait passer, il y a de cela un mois, la route de Tomegbe. Je ne sais pas si vous l'avez vu. À ce jour, je ne suis pas de Wawa, mais je ne sais pas si quelque chose a été fait à ce niveau. Les Ngobo dont vous parlez aujourd'hui, c'est des zones oubliées. Hier, il y avait ce qu'on appelait Ranche d'Adélé. Et quand il y avait la Ranche, il y avait un minimum d'ouverture sur cette zone-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le drame qui est survenu, que le monde entier est en train de déplorer, et que le Togo tout entier est en train de pleurer, surtout pour les enfants là, ce drame aurait pu être évité. Une école, elle est quand même située dans un village, et le village a des responsables. Le directeur d'école, tous ceux qui sont à Ngobo auraient dû voir comment les murs étaient peut-être lézardés, l'état de ces murs-là, et auraient pu remonter. Je ne sais pas aujourd'hui comment l'administration fonctionne. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a des commis, des gens qui sont à un niveau et qui pensent qu'à partir du moment où nous on est déjà au perchoir, les autres, ce n'est pas notre affaire, on les oublie. Avant de démarrer la rentrée, j'aurais pu comprendre que quelque chose a dû être fait. Puisque les semaines où nous parlions la dernière fois avant la rentrée, effectivement, vous aviez dit qu'il y avait la rentrée pédagogique. Et quand on fait la rentrée pédagogique, ça veut dire que les responsables des établissements, enseignants, parents d'élèves, même les chefs, cantons et tout, chacun va au lieu de l'école pour voir et aménager l'école avant que tout commence. Est-ce qu'il y a eu des rapports entre-temps qui sont remontés, qui ont été bloqués quelque part? Parce qu'il y a plusieurs Ngobo au Togo. Moi, j'ai fait les tréfonds du pays. J'ai eu la chance de faire les affaires sociales et j'ai, à l'occasion, été dans des milieux. Finalement, je m'amuse à demander de temps en temps à des amis, mais mon frère, toi qui vis depuis ici, si tu te retrouves ici, comment tu te prendras pour vivre? Il y a de ces zones-là. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pleure seulement Ngobo pendant qu'on est en train de pleurer. Il faut lancer l'alarme, l'alerte, pour que les autres Ngobo qui sont là, qu'on puisse rapidement remonter et que l'État prenne des dispositions. L'État ne peut pas être partout. Le chef de l'État, à une occasion, à une de ses sorties, dans la région de la Kara, avait interpellé tous et a dit à chacun de jouer son rôle. Qu'il ne s'agit pas que le président vienne qu'on tape dans les mains. Il ne s'agit pas que le ministre vienne, que le député vienne qu'on tape dans les mains, mais toute la chaîne doit se mettre en branle. Et je crois que l'heure a sonné, que les gens remontent les rapports et que les gens cessent d'avoir des égaux. Nous sommes déjà ici.
Merci, c'est nous, Harry Miaou. En attendant, avant d'évoluer, nous sommes rejoints par Jacques Diakouti. Bonjour.
Bonjour, Sass. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
Merci, j'en viens à toi. Mais Didier, Harry Miaou l'a si bien dit. Hein. Le chef de l'État, il y a quelques mois, à Accra, avait rencontré les représentants des pouvoirs déconcentrés de l'État. Et il les avait rappelés, chacun a joué son rôle sur le terrain. Quand nous disons l'État, c'est vrai, on pense au président de la République, au Premier ministre, au ministre. Mais l'État a des démembrements, des services qui sont à la base. Dans ce village de Ngobo, il y a d'abord le chef du village. L'école a un directeur. Il y a l'inspecteur, hein, qui a joué au sapeur-pompier après la mort. Il y a le directeur régional de l'enseignement, région centrale. Il y a le préfet de Blita. Il y a le maire de la commune, Blita 3. Qu'est-ce que l'une ou l'autre personnalité a pu faire pour s'enquérir des conditions dans lesquelles l'école de Ngobo ou bien d'autres Ngobo ont réouvert leurs portes?
Vous savez, avant peut-être de me prononcer sur le sujet, je voulais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à toute la localité de Ngobo, mais également à tout le Togo, finalement. Même d'abord, avant d'arriver là, pour parler des responsabilités, on a déjà eu ce même problème à Sokoko, il y a 2 ans, et ça ne nous a servi à rien, Jean, ça ne nous a donné aucune leçon, et ça n'a mobilisé personne pour qu'on travaille justement au niveau des écoles, en termes d'infrastructures, en termes de bâtiments. C'est vrai, il y a un projet global dans le cadre de la feuille de route gouvernementale où on veut construire jusqu'à 30 000 salles de classe de 2020 à 2025. On aura peut-être l'occasion de faire le bilan du nombre de salles de classe qu'on a eu à construire. Mais je me rends compte, et on pourra tous se rendre compte, que ce qui est arrivé à Sokoko il y a 2 ans n'a véritablement pas ému des gens, et que des gens prennent des dispositions pour que cela n'arrive jamais.
C'est Saro,
près de Sokoko, n'est-ce pas?
Non,
tu connais bien la
Saro, zone. C'est dans Sotoubois.
C'est dans Sotoubois. Ok, oui. D'accord. C'était à Sotoubois. Eh bien, on est toujours dans la région centrale. Et puis, voilà, Ngobo arrive. Et 2 ans après, avec toujours des morts et également des blessés graves. C'est un peu, je ne veux pas dire que c'est symptomatique de ce que nous vivons, mais Harry Miaou a déjà décrit la situation dans la plupart de ces localités, la reculée dans les tréfonds du Togo. Il y a quelques jours, on parlait des routes, on ne va pas revenir dessus. Mais oui, c'est la question que tu poses. Et Harry Miaou a également fleuré ça. a également effleuré, si vous permettez, cet aspect de choses, c'est que une fois que des gens sont affectés à des responsabilités, une fois qu'ils ont des fonctions, ben les autres ne comptent pas. C'est ce qu'on comprend finalement. C'est une fois que des gens font des pieds et des mains, ils arrivent à être des députés, ils arrivent à devenir maire. Ce n'est pas pour servir véritablement les gens, c'est parce qu'ils ont réussi leur vie, ils sont arrivés à sortir de la situation. Et puis le reste, ça ne les concerne pas. Combien de maires au Togo ont pu aller inspecter des établissements à l'orée de la rentrée scolaire pour voir quelle est la situation, quel est l'état des lieux et tout ça? Combien de maires?
Personne. Je rappelle, Didier, hein, que selon la loi sur la décentralisation, les écoles primaires relèvent
de la responsabilité des communes. Des mairies, voilà. Donc, vous voyez combien de maires ont pu faire un tour des établissements de leur ressort territorial pour voir quel est l'état des lieux, est-ce que la situation est favorable pour la reprise de la rentrée scolaire. On les a pas vus. Combien de députés ont pu se rendre sur le terrain pour voir quelle est la situation des établissements scolaires et comment est-ce qu'on prépare la rentrée pour voir. Vous avez vu un député se prononcer sur le sujet? On n'en a vu aucun. Donc, si ce n'est pas ce drame qui est arrivé et on en a vu quelques responsables sur le terrain, si ce n'est pas que le ministre Kokoroko avait anticipé à partir des informations qu'il avait sur le lycée de 2 février, peut-être que après Ngobo ou avant Ngobo, on serait en train de pleurer beaucoup d'élèves morts au lycée de 2 février. Donc c'est clair que beaucoup de personnalités, Arim Yawa s'amuse souvent à dire des commis de l'État, à plusieurs niveaux ne jouent pas leur rôle, et tant qu'ils ne jouent pas leur rôle, ça va se ressentir sur le gouvernement. Et ça va se ressentir sur le chef de l'État et les responsabilités à l'extérieur du pays. Quand on va dire que des élèves sont morts dans des situations dramatiques comme ça, on ne va pas voir d'abord les préfets ou les inspecteurs ou les maires. On va voir le chef de l'État et d'abord le gouvernement et qui ont failli à leurs responsabilités. C'est ce que le commun de mortels va voir d'abord. Après, on pourra situer les responsabilités à des degrés moindres. Mais c'est dire que des gens ne jouent pas véritablement leur rôle.
Merci.
Puisque l'école, si tu permets, je chute là. L'école togolaise, on connaît la situation dans laquelle elle vit, ou elle a vécu depuis longtemps. Et c'est maintenant que la pente est en train d'être remontée. On sait qu'il y a des situations très compliquées. Nous, on a fait des classes sous des paillotes, sous des apatams, où il n'y a même pas de lieu.
Il y a 20 ans, 30 ans, il y a 40 ans, 50 ans.
Ça existe encore.
Ça existe encore. Des gens font des classes sous des paillotes où il n'y a pas de mur, où il y a de mur que des clés, où la clé même, ça n'existe pas. Ça, c'est des réalités. Vous sortez de Lomé, vous allez voir encore des salles de classe comme ça. Ce n'est pas que ça nous réjouit. Ça nous interpelle, nous tous, Togolais. Merci. Je pense que il faut accompagner la dynamique tant qu'on est dans l'appareil de l'État pour que des drames comme ça soient évités.
C'est vrai que depuis le 27 septembre, si vous allez surtout sur les réseaux sociaux, c'est le gouvernement qui a attaqué le président de la République.
Oui, personne ne voit le maire, personne ne voit le
ministre. Mais ceux-là sont à Lomé, comme on vient de le voir, tout ce beau monde-là qui s'est précipité à Ngobo. Je rappelle, il y avait le préfet. Le préfet de Blita qui était là, il y avait le maire de la commune Blita 3, il y avait le directeur régional de l'enseignement région centrale, il y avait le chef d'inspection Blita Ouest, les services déconcentrés de la sécurité, de l'action sociale et de la protection civile. Si tout cela avait fait leur travail à la base et qu'ils avaient fait remonter le rapport que cette école de Ngobo n'était pas appropriée, peut-être qu'ils auraient ouvert les yeux au ministre Kokoroko, comme Didier le disait, il l'a fait pour le lycée 2 février, mais il doit sûrement y avoir d'autres Ngobo potentiellement dans tout le pays. Jacques, bonjour.
Bonjour, Sass.
Alors, il y a quelque temps, le ministre Kokoroko avait suspendu certaines écoles privées, parce que ces écoles-là ne répondaient pas aux normes minimales de sécurité. Et le voilà pris un peu la main dans le sac, bien malgré lui, qu'il y a même des écoles publiques qui ne répondent pas non plus aux mêmes normes qu'il exigeait du privé.
Bon, ça, il faut d'abord parler même du patrimoine de l'État au Togo. Vous prenez pas seulement les écoles. Regardez un peu les ministères, les services de l'État.
Il y a un auditeur qui nous rappelle souvent le commissariat de police au marché à la gare routière d'Agbalepédo.
C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Il y a un seul problème. Vous vous rappelez, on avait fait une émission ici. Entre-temps, vous avez dit que le Togo a un directeur du patrimoine. Et vous avez parlé de, je crois, Kanikatoa,
oui,
qui est le responsable. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui faire un répertoire. Pas seulement les écoles, même les services de l'État. Vous allez dans certains bureaux dans ce pays, un bureau qui peut contenir, par exemple, vous prenez la dimension de ce studio, vous allez retrouver, par exemple, 10 à 20 personnes. Quel rendement ces personnes-là peuvent apporter à l'État? Aucun rendement. Donc il faudrait aujourd'hui, vous savez, l'État dispose de beaucoup d'espace. Il faudrait aujourd'hui que l'État commence par construire. Quoi qu'on dise, quand vous prenez par exemple le centre-ville, le CASEF par exemple, tout est plein déjà là-bas. Vous avez vu, grâce à la coopération des Chinois, on a pu construire le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, qu'on a déplacé du centre-ville vers Lomé 2,
oui,
ce qui est une bonne chose. Vous voyez, vous avez parlé des écoles. Ça, il faut aller à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Il faut aller à l'intérieur. Nous venons de l'intérieur, on sait ce qui se passe.
Nous sommes des
villageois. Les gens, vous prenez certains quartiers même, ça, pour, je parle des villages. Le quartier, par exemple, est bas, pour venir vers chez vous ici, les gens sont obligés de contourner, passer par exemple, à Agbalepédo, avant de venir vers vous ici. Parce que il n'y a pas une route qui relie ce village-là à l'autre. Il faut passer par des chantiers battus avant de pouvoir regagner les villages. Et ça crée également des problèmes. Moi, vous savez, souvent on interpelle les gens, et bon, après tout, les gens interprètent comme si on est contre eux. Alors qu'on n'est pas contre eux. Vous prenez aujourd'hui le ministère des pistes rurales, par exemple. Ce ministère a fort à faire. Ce ministère, je vous dis, a fort à faire au niveau, effectivement, de l'intérieur du pays. Si le ministre Kokoroko veut aujourd'hui établir effectivement un fichier par rapport à ces écoles, c'est le lieu de commanditer rapidement un audit. Mm-hmm. Oui, il faut le faire. Parce que comme les Tchanyao et Didier viennent de le dire, attention, la pluie n'a pas cessé, hein. Il continue toujours de pleuvoir.
Donc la météo annonce encore
justement
le mois d'octobre avec
bien sûr, il pleut, des précipitations
en abondance.
Il pleut toujours. Donc c'est le moment, il faudrait que le chef de l'État tape sur la table et dise: commanditez-moi l'audit de toutes les écoles du pays qui sont encore sous les embankos là.
Mm-hmm.
Il faut qu'on fasse rapidement l'audit. Et vous vous rappelez que le ministre Kokoroko avait annoncé, même dans le temps, de pouvoir construire des hangars améliorés pour ces établissements.
Mm-hmm.
Le projet là est où aujourd'hui, hein? Le projet à quel niveau? Et qu'on assiste encore à ce drame-là. S'il y avait par exemple ce projet d'hangar amélioré, je ne pense pas que ce mur allait encore se volonter sur les élèves. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle, il faudrait que les gens comprennent, c'est pour le bonheur de nous tous. Parce que quand un Togolais meurt, il faut reconnaître que c'est toute la nation qui est en deuil.
Qui est affectée.
Oui, qui est affectée. Ce qui s'est passé, vous avez vu que partout dans le monde entier, les réseaux sociaux, hein, les chaînes ont pris. Et ils sont en train de relayer cela, qu'on dise encore qu'à ce 21e siècle, qu'un mur en banco puisse tomber encore sur les enfants, vous voyez que ça fait quand même un peu mal.
Tout ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que le Togo est encore vierge. Nous avons tellement de défis à relever, tellement de travail à faire. On parle des écoles, on peut parler de la santé, on peut parler des pistes rurales, on peut parler de ceci, de cela. Nous avons tellement du travail à faire, à se demander si nous en sommes conscients et si nous ne nous laissons pas souvent la proie pour nous corroler sur l'ombre.
Oui.
Harry Miaou?
Non, je crois que connaissant le Togo, j'ai eu la chance d'aller à Cessaro, que Didier a évoqué, après le drame qui était survenu il y a 3 ou 4 ans, à Cessaro. Je vous assure que l'école qui a été construite à Cessaro après le drame, mais il n'y a pas, cette école n'a rien envié aux écoles de Lomé ici. Hein.
Mm-hmm.
Ils ont refait une très belle école, et avec tout l'arsenal moderne, et je crois que Ngobo va aussi en profiter. Mais j'avoue que ce que Diakouti a dit est très important. Il faut aller faire l'audit et répertorier toutes ces écoles qui sont en état de la BT avancée et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir.
Mm-hmm.
Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on attende qu'il y ait le malheur pour commencer par penser à ce qu'il faut faire pour nous préserver nos vies et pour donner le cutus à ces jeunes, à nos enfants qui doivent être la relève de demain.
Merci. Oui, tant vaut l'école, tant vaut la nation, les futurs grands ingénieurs, les futurs grands journalistes, ministre, les futurs chefs d'entreprise, les futurs chefs de ceci, de cela, c'est eux qui sont dans les écoles primaires aujourd'hui. Nous devons les soigner. Si nous voulons rêver grand pour notre pays, commençons par soigner la formation de ces petits anges qui feront flotter le drapeau togolais avec fierté, même si nous sommes dans l'au-delà. Didier ?
Oui, naturellement, vous savez, les secteurs les plus sensibles au-delà du problème sécuritaire qu'on pourrait avoir, le problème le plus sensible, et comme tu parles d'ailleurs même de l'avenir, c'est aujourd'hui le domaine de l'éducation et le domaine de la santé. Or, ça se trouve que dans notre pays aujourd'hui, c'est les secteurs, je ne vais pas dire délaissés, mais c'est les secteurs où il y a tous les défis, et c'est en même temps les secteurs où il y a beaucoup de problèmes également. On essaye de régler au coup par coup, au cas par cas. Et comme Arim Yeo l'a dit, il ne faut pas seulement qu'on attende qu'un malheur arrive avant que l'État n'arrive dans les secteurs. Je ne veux pas faire une digression pour la région des savants, par exemple, où l'État était absent pendant de nombreuses années, et lorsque le problème sécuritaire s'est posé, on a vu un plan d'urgence pour la région de la savane et tout ce qu'il y a, la mobilisation qu'il y a de ce côté-là. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des années à venir à parler de plans d'urgence peut-être pour l'éducation ou pour le secteur de la santé. Ça va être beaucoup trop tard pour nous parce que si nous voulons un Togo bien construit demain, un Togo évolué demain, ou comme les gens disent, un Togo émergent à l'horizon, je ne sais pas, il faut véritablement que dès aujourd'hui, on prenne toutes les dispositions pour voir quelle est la cartographie de nos écoles, tant public que privé, et quelles peuvent être les interventions urgentes de l'État dans tel nombre de mois, dans tel nombre d'années, pour qu'on voit justement qu'on arrive à solutionner les problèmes les plus urgents pour arriver justement à stabiliser le secteur.
Mais je l'ai rappelé, si vous consultez le budget de l'État togolais, vous vous rendrez compte que c'est le secteur de l'enseignement, de l'éducation qui absorbe la plus grande partie. C'est dire que l'État fait déjà, mais il y a encore tellement de besoins sur le terrain que nous devons vraiment retrousser les manches et travailler sérieusement. Et l'État qui nourrit toujours ses ambitions, pas plus tard que la semaine passée au Conseil des ministres, nous avons appris qu'il sera construit incessamment une université publique à Dacha, dans la région des plateaux. Quand nous en aurons beaucoup plus de détails, nous vous en parlerons. Mais Arim Yaou, un auditeur nous rectifie un peu pour nous rappeler que M. Kanikatoa a en charge le patrimoine du Togo à l'étranger.
Non, c'est Jakoti qui l'a
dit. Oui, justement, Kanikatoa a en charge, est responsable du patrimoine de l'État à l'étranger, notamment les ambassades, les résidences et consorts. Mais nous allons chercher celui qui gère le patrimoine ici pour l'interpeller, pour qu'il fasse faire également son inventaire.
Mais même ça, quand vous prenez les ambassades, même à l'étranger, il y a également
des problèmes. Il y a également des bas là-bas. Mais continuons toujours un peu avec l'intérieur, avec cet article de Liberté qui écrit « Arnaque dans les centres de santé au Togo, Kara, Dapaon et point de suspension, pandémie de trafic de médicaments ». L'article part, dit nommément que pour deux produits dont le prix total est de 5 900 francs, un paysan s'est fait soutirer 30 000 francs à Dapaon. Ça, c'est encore l'éloignement qui cause beaucoup de préjudices à nos compatriotes de ces zones reculées. Jacques,
je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est avec vous qu'on avait participé à un séminaire à Palimé, vous vous rappelez, je crois, avec Je ne sais pas si c'était lors des pharmaciens où on nous parlait des médicaments et autres.
Oui, la chaîne de médicaments.
Voilà.
Les médicaments essentiels, justement, les médicaments bons.
Et de toute façon. Oui, j'avais soulevé ce problème parce que je connais un peu la localité, parce que c'est ma région. Mm-hmm. Et le jour là, le responsable disait que le Togo est en train de prendre des dispositions sur le gouvernement pour voir comment aider ces populations à travers les pharmacies villageoises. C'est ce qu'il avait dit. Mm-hmm. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que il y a de ces médicaments, quand vous allez par exemple dans ces pharmacies, des pharmacies villageoises, vous ne pourrez pas en trouver. Mm-hmm. Et c'est les pharmacies auxquelles vous pouvez aller. Et là aussi, il faut également faire la queue avant de pouvoir trouver ces médicaments. Et l'autre aspect, vous savez, c'est un dossier qui pendait depuis dans cette région. On avait contacté certains dans cette localité pour leur poser des questions par rapport à ce que Liberté a écrit aujourd'hui. Les gens ont dit, quand ils vont, ils n'en trouvent pas. Et quand ils trouvent également, les gens essaient de majorer le prix. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que et le ministre de la Santé et le nouveau ministre qui est chargé de
l'accès universel
aux soins, il faudrait faire également un autre travail, un travail de fond. C'est ce qu'on dit. C'est vrai que installer une pharmacie dans certaines localités, il faut voir également la rentabilité. Mm-hmm. Parce que c'est pas seulement il faut aller installer une pharmacie, vous installez une pharmacie, comme les stations d'essence aussi, il faut toujours faire l'étude du marché avant de pouvoir installer. Donc je crois que ces pharmacies villageoises qu'ils sont en train d'installer aujourd'hui dans ces localités, il faut essayer de voir les produits, faire l'enquête également dans ces localités, voir les produits qui coule vite et quels sont ces produits là que les populations en demandent. Mm-hmm. Et il faut l'approvisionnement et les populations pourront en bénéficier. Dans le cas échéant, ce que nous sommes en train d'assister, c'est ça dans ces localités.
Oui, cela pose le problème du maillage du territoire, aussi bien en station d'essence que de pharmacie. Le Togolais, qu'il soit à El Avagnon, qu'il soit à Tong, qu'il soit à Djarkpanga, qu'il soit à Mandouri, il est Togolais, il a également le droit aux mêmes soins de santé. Didier, à notre manière, on va toujours interpeller le gouvernement par le ministère de la Santé et consorts, mais également lors des pharmaciens et toutes les bonnes volontés, on va pouvoir quand même s'investir pour que une pharmacie soit le plus propre possible des Togolais, comme nous le souhaitons pour les écoles, pour les centres de santé et consorts.
Oui, oui, pour la pharmacie, vous savez que c'est un très très bon business, hein, très, très lucratif, la vente des médicaments.
À ce rythme-là, tu vas te reconvertir en pharmacien?
Non, malheureusement, je n'ai pas fait des études en pharmacie, donc ils ne me donneront pas cette possibilité, surtout que c'est une chasse gardée pour les pharmaciens. Mais ce qu'on leur demande, vous voyez, tous ont envie de s'installer à Lomé, parce que c'est Lomé, les gens achètent, vous voyez des fois comment les gens se battent même pour avoir des gardes des pharmacies certaines fois, mais ce qu'on leur demande, et on a souvent posé cette question aux pharmaciens et notamment à l'ordre des pharmaciens, c'est de pouvoir trouver des mécanismes pour avoir ne serait-ce que des dépôts dans les villages, des dépôts dans les villages, dans les cantons, pour éviter justement que des situations comme ça ne se produisent. Mais on voit que ce n'est toujours pas encore le cas. Et donc, nous lançons cet appel à l'ordre des pharmaciens de trouver un mécanisme où, même s'ils n'ont pas forcément des pharmaciens, des gens qui peuvent justement tenir des dépôts de pharmacie un peu partout dans les villages, dans les cantons, pour éviter justement que les populations aient ce manque-là d'accès aux produits pharmaceutiques et surtout se fassent arnaquer ou se fassent arnaquer en quelque sorte dans les centres de santé.
Mais je reste toujours avec toi et toujours avec le Togo profond. Le samedi dernier, c'était le dernier samedi du mois de septembre, journée nationale du sport. Et l'heureuse nouvelle pour les populations du Nord, c'est que la ministre Bessie Kamah des sports est allée faire ses sports à Dapaon. Et elle a mis l'occasion à profit également pour remettre aux populations deux plateformes sportives dans les savanes. Je l'ai lu dans Togo Breaking News.
Oui, oui, la ministre des Sports donc a fait, donc comme tu l'as rappelé, ses sports le samedi. Elle est dans la région déjà depuis jeudi ou vendredi et a fait ses sports le samedi. Donc elle en a profité pour remettre aux préfectures donc de Tandouaré et de Saint-Cassé deux infrastructures, deux plateformes comme ils appellent, deux plateformes sportives qui donc devaient permettre à ces préfectures-là, aux localités et aux jeunes de ces préfectures de pouvoir faire un certain nombre de sports. Donc les plateformes que la ministre des Sports a inaugurées là sont des plateformes devant permettre de faire le basket, le handball, le badminton, le tennis et un certain nombre donc d'autres sports, le volleyball, si vous, le tennis également si vous voulez. Et donc c'est des plateformes comme ça qui sont en train d'être construites dans la plupart des préfectures. Selon la ministre, toutes les préfectures du Togo devraient en avoir. Donc c'est vrai que on sait le problème d'infrastructure, on en a parlé tout à l'heure pour les écoles, on a parlé pour les routes, on parle pour le secteur sanitaire, mais le secteur sportif également souffre des mêmes problèmes et la ministre en est consciente et a trouvé ce projet-là de pouvoir mettre ces plateformes multisportives dans la plupart des dans chacune des préfectures. Donc je crois que deux dans la région de, il y en a déjà eu hein, dans la région de des Savanes, mais c'est les préfectures de Saint-Cassé et de Tandouaré qui viennent d'en avoir. Donc souhaitons que des plateformes comme ça se multiplient. Ça pourra favoriser également la pratique des sports, puisque c'est la politique là-bas, de faciliter la pratique des sports dans ces préfectures-là. Et donc que des terrains ne manquent pas, tant on veut pratiquer le volleyball, le basket, le tennis, le handball, le badminton, si on veut pratiquer tous ces sports-là, qu'il n'y ait pas de plateforme qui manque là-bas. Et le souhait également, c'est qu'au-delà de tout ça, d'autres plateformes viennent s'ajouter pour le bonheur des populations qui n'en demandent pas mieux.
C'est l'occasion de rappeler à Rémiaou que Lomé, c'est la capitale avec les meilleures infrastructures sportives, les grands clubs, mais le vivier sportif du sport, c'est le Togo profond. C'est les jeunes des localités, régions maritimes, plateau, central, savane et consorts. C'est eux qui constituent le vivier qui viennent alimenter les grands clubs ici à Lomé. C'est pourquoi c'est vraiment opportun et important de leur permettre d'avoir un minimum d'infrastructures pour commencer.
Oui, mais absolument. Même en termes de football, hier comme aujourd'hui, vous voyez que les grands clubs, ceux-là qui font la fierté, que ce soit du football, du basket, un peu partout, ce sont des clubs qui sont à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui ont souvent pensé que tout ce qui est bien, c'est à Lomé, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a des équipes qui sont à l'intérieur et qui font de merveilles et qui émerveillent beaucoup de gens en toutes les disciplines. Donc, la ministre a bien fait d'aller, surtout dans les savanes, où aujourd'hui le gouvernement a mis tous les projecteurs pour permettre à ces jeunes-là d'avoir les lieux ou bien l'équipement nécessaire pour s'essayer dans toutes les disciplines. Parce que, au-delà de tout, ils ont besoin aussi d'avoir le nécessaire pour faire le sport et faire valoir leurs talents dans les domaines. Et vivement que cela prenne et que les autres régions également puissent avoir cette visite de madame le ministre et qu'elle puisse aussi pouvoir accompagner, parce que le sport c'est partout, on en a besoin d'Apaon, on en a besoin dans la carrière,
ça si tu permets, ouais. puisqu'on parlait de l'école tout à l'heure, il y a un lien intrinsèque entre l'école, le talent et le domaine sportif, et c'est justement dans les lycées de Nano et dans les lycées de Saint-Cassé que la ministre des Sports a inauguré ces plateformes-là. C'est pour vous dire que on parle de l'infrastructure au niveau même des écoles. C'est dire que on doit construire les écoles pour pouvoir permettre justement à toutes les autres infrastructures de pouvoir se loger. Et donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de nos écoles. Félicitations à la ministre et au gouvernement, mais ça, le travail doit continuer dans ce sens-là.
Le travail continue parce que les besoins sur le terrain sont essentiels et nombreux.
Oui, je crois ça. Il faudrait que la ministre du sport qu'elle fasse sortir également le document sur la politique du sport au Togo. C'est important pour nous. Vous savez, il ne suffit seulement pas d'aller inaugurer, par exemple, une infrastructure à Tandouaré et c'est fini.
Aujourd'hui, je ne sais pas si ma mémoire est fidèle, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, elle a sorti un tel document
justement
sur la politique du sport autonome.
Voilà, il faut développer cette
politique. C'est peut-être la divulgation qui
reste maintenant. Oui, j'ai eu la chance de voir ce document-là quelque part, mais il faut dire que je n'ai pas eu le temps de lire. Mais il faudrait aujourd'hui, j'ai vu que quand même, c'est des paramètres qu'il faut considérer. Aujourd'hui, ça, ce qu'on dise, si le sport constitue aujourd'hui un maillage pour l'ensemble du territoire national. Le football aujourd'hui, prenez le cas par exemple du Togo, à part le stade de Kégué, vous prenez peut-être le stade de Assokodé que je connais un peu, mais j'y étais tout récemment, quand il pleuvait, attention, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas jouer. Donc il faudrait aujourd'hui, les pays ont l'ambition aujourd'hui d'organiser les coupes, la CAN d'une façon conjointe.
Voire au-delà.
Au-delà. Il faudrait aujourd'hui que le Togo puisse développer également cette politique d'avoir des stades. Ou par exemple demain, on peut dire que le Togo et le Bénin se sont
s'associent pour abriter une
compétition. Vous voyez, moi je crois que, Madame la Ministre, vous avez fort à faire. C'est vrai que ce que vous êtes en train de faire, en train d'inaugurer les infrastructures au niveau des régions, c'est une très bonne chose. Il faut développer également cette politique. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le cas du Bénin tout récemment, vous avez vu qu'ils ont pu organiser un tournoi de pétanque pour l'international, une Coupe du Monde. Vous voyez, donc c'est quoi? C'est des choses comme ça qu'il faut
développer. Ils ont même organisé la Coupe d'Afrique de Maracana.
Justement.
Ils se sont même associés avec le Nigeria. Pour postuler à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ça n'a pas prospéré, mais ils ont quand même commencé à oser.
Ça, franchement, j'invite la ministre à sortir effectivement ce document et essayer de valoriser ce document-là et divulguer ce document-là un peu partout. Vous savez, Adebayo était allé au niveau de l'université de Lomé, au temps du ministre Kokoroko.
Quand Kokoroko était encore président de l'université.
Bon, justement.
Quand Kokoroko
sera tout compte fait. Mm-hmm. Vous voyez, donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse effectivement étendre ces genres de politiques-là dans l'ensemble du territoire national. Mm-hmm. Le Togo a beaucoup de talent. Je vous dis, si on arrive aujourd'hui à développer ces infrastructures et à développer toujours cette politique de sport, je vous dis que le Togo sera loin.
Merci. Nous allons financer ces infrastructures si notre économie se porte de mieux en mieux. Et c'est d'ailleurs le prochain sujet quand Togo Matin, en revenant sur le Conseil des ministres tenu la semaine dernière, écrit aujourd'hui, situation économique au premier semestre 2023, hausse des échanges commerciaux et revue des prévisions de croissance. Nouvelle opinion aussi fait le bilan de la situation économique au premier semestre 2023 avec des performances encourageantes. Arémiaou?
Oui, absolument. Quand quelqu'un lit le titre, il va se dire que ça ne va pas au Togo, les choses sont de plus en plus difficiles et qu'on parle de performances encourageantes pour le Togo. Cela veut tout simplement dire que c'est vrai, il y a la conjoncture, elle est mondiale, tout le monde la connaît, mais il y a certains paramètres qui font croire ou comprendre que les choses vont bien dans un pays. Vous voyez, quand vous allez par exemple au niveau de l'aéroport, c'est ce bilan que le ministère de l'économie a eu à faire le jeudi passé. Le trafic a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui foulent le sol togolais. L'aéroport du Togo est devenu aujourd'hui un hub touristique et où les gens, les opérateurs, les hommes d'affaires grougent. De la même façon, quand vous allez au niveau du port et quand vous prenez certains indices au niveau du commerce, vous voyez que tout fleurit, malgré que les uns et les autres crient à la conjoncture et à la difficulté de vie quotidienne. Il y a ces paramètres qui font et généralement, les macroéconomistes, ils finissent par dire que tout va bien dans un pays par rapport à l'économie. C'est ce qui a été relevé et c'est pourquoi nous parlons de performances encourageantes pour le Togo.
Juste rappeler, Jacques Diakouti, que c'est vrai, nous avons beaucoup de défis à relever, mais il y a quand même des domaines dans lesquels nous avons de petits succès qu'il vaut la peine de célébrer pour nous motiver à aller de l'avant.
D'accord avec vous. Vous savez, il ne faudrait pas que ces performances qu'on a au niveau effectivement du port et de l'aéroport, qu'on puisse chaber le champagne. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse vraiment travailler. Mm-hmm. Vous allez par exemple au niveau de l'aéroport, SAS. J'ai escorté un ami la fois passée, mais j'étais un peu étonné. La plupart de nos compatriotes qui quittent le pays, certains qui vont au Canada, certains en France, aux États-Unis. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais si tout ce flux-là quitte le pays, qui va rester alors pour construire notre pays?
Surtout les jeunes.
Oui, bien sûr, je parle de cette jeunesse. Vous voyez, si c'est par exemple ce indice-là, que par exemple le ministre des Finances a pris pour parler de la performance, il y a un problème.
Non, je pense que son appréciation doit porter sur le flux des voyageurs, aussi bien ceux qui arrivent aussi.
Non, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait faire la nuance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réjouir tôt. Il faut travailler. Mm-hmm. Vous voyez? Parce que ce que j'ai vu, le trafic, et jusqu'à ce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le reportage, où le Canada dit aujourd'hui qui n'en peut plus parce qu'il y a plus de logements.
Mais il n'a pas dit que c'est les Togolais qui vont envahir le Canada.
Non, hein. Ce que je voulais dire, je parle de ceux qui sortent du pays. Mm-hmm. Il faudrait aujourd'hui qu'on mette des mesures pour vraiment aider les compatriotes à aimer leur pays et à travailler pour le pays. Parce que si aujourd'hui j'ai ma licence ou bien j'ai par exemple ma maîtrise, je quitte le pays, mais demain le Togo également aura besoin de la main d'œuvre comme le Canada. Et nous allons souffrir à paix. Oui. Donc je crois qu'il faudrait dès maintenant. Moi, je ne suis pas là pour empêcher quelqu'un de partir, mais il faudrait que l'État également commence par penser, commence par réfléchir, voir comment retenir effectivement ces compatriotes-là, oui, les mettre dans des conditions pour pouvoir travailler.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Méditerranée qui constitue aujourd'hui une porte de sortie pour les gens.
Oui, oui.
Mais il faudrait que les conditions également soient réunies pour que quand tu es au Togo, quand tu travailles, que tu sens que effectivement tu es au Togo, tu travailles et tu peux effectivement subvenir aux besoins de la famille.
Ce que Jacques pose, c'est un problème vraiment sérieux. Il y a une forme d'évasion des cerveaux dont on ne parle pas beaucoup. La très grande partie des jeunes Togolais qui vont étudier à l'extérieur, combien reviennent
justement
au pays pour travailler? De ceux qui reviennent, vous n'êtes pas surpris que 1-2 ans après, beaucoup de ceux-là sont obligés de repartir.
Justement.
Et quand vous causez avec eux, c'est que ils se plaignent que le Togo, le pays, ne leur offre pas des occasions qu'ils se fixent au pays. Alors c'est un manque à gagner terrible. Parce que et l'État et les familles ont investi dans leur formation. Maintenant qu'ils sont des produits finis d'un haut niveau intellectuel, ils vont s'établir et travailler gratuitement pour d'autres pays.
Non, je crois qu'il faut qu'on soit très clair et qu'on dise la chose telle qu'elle est. C'est vrai que les gens quittent nos pays, il n'y a pas que le Togo. Vous voyez, un pays comme le Nigeria, sur le plan économique, le Togo ne peut pas, à mon avis, se comparer à un pays comme le Nigeria. Mais quand vous allez dans des autres pays, que ce soit en Europe, à Londres, partout, même au Togo, la communauté nigériane est très forte ici. Et je voudrais qu'on se fasse cette idée pour dire que le développement passe par là aussi. Vous allez voir le ministre, professeur Robert Doucet, il vous dira qu'est-ce que la diaspora togolaise. Quand je dis diaspora, ce n'est pas forcément en Europe. Au Niger, même à côté, il y a des Togolais là-bas. En Libye, un peu partout. Même au Niger, il y a des Togolais. C'est ce brassage qui fait le monde. Je ne crois pas que forcément, c'est parce que certains Togolais partent, qu'on ne peut pas dire qu'on va au développement. Pour moi, il y a des gens qui partent effectivement, ce n'est pas forcément des diplômés qui partent forcément. Il y en a qui n'ont même pas de diplôme et qui partent et qui contribuent à construire.
Ça, je suis d'accord. Mais Harry Miaou, si nous formons des jeunes,
oui,
jusqu'à Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 7, et que ceux-là, on ne les encourage pas à revenir travailler pour le pays, mais qu'ils vont s'établir dans des pays étrangers et que c'est quelques parties de leur économie qu'ils envoient au pays, là ce n'est pas contribuer à la croissance du pays.
Je comprends la chose telle qu'elle est. Voilà même que le Togo est en train de multiplier les universités pour former davantage les gens.
Oui.
Vous savez qu'on a lancé un projet de création d'une nouvelle université.
D'accord.
Moi, je crois...
On va les former. Mais qu'en est-il de
leur absorption à la
Voilà.
Fin. C'est pour cela que j'ai dit que les départs dont Jacques parle, on ne peut pas dire que ce sont de bonnes choses. Mais parmi les départs, il y a des gens qui permettent le développement de notre pays. Il a parlé de l'aéroport. Maintenant qu'on parle aussi du port, puisqu'il a dit qu'il ne faut pas se focaliser au niveau de l'aéroport pour dire qu'il y a des départs et des arrivées, pour dire que bon, il y a un essor économique. Mais allons au port. Et au port, je crois qu'il n'y a pas de passagers qui passent par le port pour voyager. Mais on parle en ce moment de trafic. Qu'est-ce que le Togo fait comme trafic, malgré la crise connue au niveau du monde, au niveau du port? Ça veut dire que les indices disent que ça va au port de Lomé.
Non, je l'ai dit, nous avons ports. Quand même des
donc,
succès hein, qu'il faut célébrer voilà, pour nous motiver
à aller de l'avant. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le ministre qui s'assoit dans son bureau et qui décrète que bon voilà, il y a des trafics au niveau de l'aéroport, il y a des trafics au niveau du port, donc merci. L'économie va bien.
Et bien
mais il y a des indices internationaux que les gens suivent pour faire ce classement. C'est comme aujourd'hui la Banque mondiale va féliciter un pays
où la
crise y est. Et on dit que non, que ce n'est pas nous qui le faisons.
Alors, le bilan, la situation économique au premier semestre 2023 est assez positive, d'accord. Et cela nous introduit donc à la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Deux journaux s'y intéressent. Togo Matin, qui parle de coopération Togo-Union européenne, l'heure du bilan. Méga Info aussi écrit absorption des engagements financiers, l'Union européenne qui félicite le Togo. Didier, Togo Breaking News a aussi consacré un article à cette rencontre entre les deux partenaires.
Oui, je crois que cette rencontre-là permettait également de faire l'état des lieux de la coopération entre le Togo et l'Union européenne. Pour voir en termes de projets, de financement de projets, si ça évolue bien au niveau du Togo et si le Togo a justement mis en place des mécanismes qui permettaient d'absorber l'essentiel donc de ces revenus-là. Vous savez que généralement, quand on finance des projets au Togo, ça a été le reproche de tout le temps, qu'on finance des projets, il y a souvent de ces mécanismes-là ou de cette tendance-là qui avait cours et qui empêchait donc l'absorption du budget. On en a vu avec beaucoup d'autres projets, le projet légendaire financé par la Banque mondiale au niveau de l'éducation à l'époque. Peut-être qu'on en paie le prix aujourd'hui. Les gens avaient empêché l'absorption donc de ces fonds-là. Peut-être qu'ils pensaient que ça resterait des reliquats à se partager. La Banque mondiale a répatrié les sous et parti. Donc aujourd'hui, et je pense que ça nous a servi de leçon. Et à chaque fois qu'il y a un projet de financer, tant au niveau, par tous les partenaires techniques, donc le gouvernement a mis en place des mécanismes aujourd'hui qui permettaient donc d'absorber donc le financement. Donc cette revue-là qui avait eu au niveau du portefeuille de l'Union européenne au Togo a été donc concluante, a permis donc de voir que le Togo... Le portefeuille de l'Union européenne au Togo, ça évolue bien, tout se déroule dans les normes et que les projets financés continuent d'absorber toutes les ressources mises à la disposition du Togo, même si c'est des prêts. Oui, on s'en sert quand même pour améliorer
donc,
un certain nombre.
Le Togo arrive à consommer les enveloppes financières que l'Union européenne met à notre disposition.
Contrairement à ce qui se passait de par le passé. Donc, et ce portefeuille-là se porte très bien, évolue très bien. Vivement que ça permet donc de régler la plupart des problèmes que nous voulons de soulever ici. Ça pourrait permettre
merci.
De les régler.
On va terminer avec cet article du Togo Breaking News qui parle de l'agence Ecofin ou bien Ecofin, je ne sais pas, qui vient de dresser un nouveau baromètre de confiance au plan africain, je présume. Au nombre des personnalités supposées dignes de confiance se trouvent au moins deux Togolais, à savoir le président de la République, Faure Gnassingbé, et notre ami ancien ministre universitaire, gros critique, Kakoum Boupo.
Oui, et ça fait la deuxième fois que ce baromètre est publié par l'agence très crédible, l'agence Ecofin, qui ne fait pas dans la politique, mais qui fait uniquement dans l'économie et dans les administrations publiques. On est fan de leur article et tout ce qu'ils produisent. Et c'est également l'agence Ecofin, c'est également un success story, si vous voulez. Contrairement à d'autres agences, eux au moins sont jugés crédibles un peu partout sur le continent africain aujourd'hui. Donc c'est eux qui établissent le baromètre et c'est pas ils se cachent quelque part pour sortir la liste. C'est un sondage qu'ils envoient un peu partout à quelques 88 000 abonnés éparpillés un peu partout sur le continent africain. Et c'est du vote de ces 88 000 abonnés-là qu'ils tirent justement les 50 personnalités parce qu'ils soumettent une très longue liste d'une centaine de personnalités. Et donc, c'est du vote de ces abonnés-là qu'ils tirent ceux qui ont été les 50 premières personnalités à être retenues ou à recueillir le plus de votes possible. Mm-hmm. Et donc, dans la première liste, la première édition, il y avait déjà le chef de l'État qui était classé 45e et le ministre, l'ancien ministre Kakou Noubukpo était classé 30e dans la liste.
Kakou est venu avant le président.
Oui, dans la première édition et dans cette édition également, Kakou a regressé de 7 points, mais il est classé 37e. Et le chef de l'État a regressé de 4 points, il est classé 49e dans cette liste. Donc, c'est de dire que je pense que si ils ont pu se maintenir, c'est bon. Pour Kakou, vous savez justement sa ligne de critique du CFA et tout ce qu'il y a. Donc, ça lui a conféré cette crédibilité qu'il a aux yeux donc des Africains aujourd'hui. Et je présume que pour le chef de l'État, c'est peut-être ses interventions sur le plan sous-régional ici. On a encore le légendaire dossier des militaires ou mercenaires ivoiriens, si vous voulez. Ça dépend de qui les appelle. Et d'autres dossiers également, même l'actualité en cours, vous savez, la question du Niger, la position du Togo. Et donc, je pense véritablement que ça pourrait être des crédits qui sont allés dans le compte du chef de l'État. Donc, c'est quand même un peu, on va dire, le Togo a réussi quand même à placer, mais pendant que d'autres pays comme le Sénégal a réussi à placer beaucoup de personnes. Et il faut préciser que c'est une Sénégalaise, Fatou Dione, vous connaissez l'écrivaine, qui est la première. Notre confrère Alain Foucault est deuxième dans ce classement-là. Donc ça veut dire que les écrivains et les journalistes aussi ont beaucoup de crédibilité aujourd'hui.
Au Togo, il n'y a que deux
personnalités. Au Togo, il n'y a que deux personnalités,
Kakou et le chef de l'État, Forogna Zengbe. Jacques Jakouti, sur ce classement ou bien autre chose que tu as partagé avec nous avant la fin de la première partie.
Non, je crois que c'est le Togo qui gagne. Hein, si les gens ont confiance à nos deux compatriotes, il faudrait quand même les féliciter pour le travail. Parce que vous savez, il n'y a que seulement le travail qui paye. Les inviter à redoubler encore plus d'ardeur, de courage par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et revenir un peu sur ce que Tchagnao disait tout à l'heure, la performance du Togo, nous félicitons cette performance, mais nous encourageons effectivement le travail, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit encore, si aujourd'hui on nous parle de l'aéroport, on nous parle également du port, c'est vrai, c'est une très bonne chose.
Le port qui venait d'être classé deuxième en Afrique, deuxième port en Afrique aujourd'hui selon le dernier classement et 94e au monde.
Donc je crois que c'est une très bonne chose. J'ai vu le colonel Balakiyem Nyerok Nyasingbe qui a parlé de la sécurité du port la fois passée. Il parlait également de la performance. Donc,
le port a pu faire sortir Rock,
Rock
de sa discrétion.
Justement. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Oui. Encourageons effectivement nos ministres. Comme le président de la République l'a dit, il faudrait que chacun fasse effectivement le travail. C'est-à-dire que c'est le travail qui
fait. Au niveau où il se trouve.
Où se trouve, c'est ça.
Et nous, notre niveau, c'est informer. Mais également, non pas critiquer, mais attirer l'attention des dirigeants sur ce qu'ils ne voient pas toujours. Kokoroko, dans son bureau, il ne sait pas ce qui se passe à Haoutoué, à Kwewa, à Kouvé, ou bien chez les parents de Jacques dans les savanes. Il a besoin de journaux critiques audacieux pour attirer son attention.
À Kouvé-Boli surtout, oui. Où le CEG manque pratiquement de tout. Parce que c'est le CG que moi j'ai fait, on l'a fait sous les arbres et tout ce que vous connaissez.
Maintenant,
il y a un bâtiment, mais c'est pas suffisant. Il y a que le bâtiment et le reste n'existe pas.
Merci, on va le faire. Et Kokoroko, pour ce qui
est. Ça, le faire.
Ça, ça promis.
Non, non, c'est nous tous, les 8 millions de Togolais que nous sommes, d'accord. C'est nous qui allons le faire. Mais c'est Kokoroko qui est là-bas pour l'enseignement. Hein, nous le lui rappelons. Et Forogna Zengbe et Kakou Noubukpo qui ont réussi à se faire classer dans les 50 premières personnalités qui comptent en Afrique, le port de Lomé et tous les autres, Tout ça nous ramène encore à ce que nous avons dit au début de l'émission, le travail. Harry Miaou, rappelle-nous la devise du Togo encore une fois.
Travail, liberté,
patrie. Travail, liberté, patrie. Et le sage nous apprend ce jour que les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Oui. La première partie s'arrête ici. Nous allons souffler un peu. Pendant ce temps, Michel va travailler en adressant les clins d'œil de Canal FM à nos partenaires. Et puis, les auditeurs vont se préparer à entrer en ligne sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 91 36 63 75. 93.5. Canal FM. Nous avons parlé aujourd'hui de sujets de proximité. Nous sommes intéressés à nos parents du Togo profond. Et puis on a terminé avec les performances de l'économie et les attentes encore pour que le Togo soit réellement émergent de façon inclusive. La parole est à vous à présent. Bonjour l'ami au bout de la ligne.
Oui, bonjour.
Oui.
Komla Johannes.
Komla Johannes.
Bonjour au studio. Mm-hmm. Et mon premier sujet, c'est concernant les écoles.
Oui.
Et concernant ce drame qui est intervenu. Ne vous étonnez pas que l'État soit attaqué de partout. Moi, ce qui m'a plutôt étonné, selon moi, c'est que vous soyez juste apesanti sur le fait que les autorités locales n'aient pas joué leur rôle, n'aient pas remonté l'information. Mais si toutes ces autorités-là ont effectivement remonté l'information, là, à qui on doit s'attaquer? Là, vous n'avez pas éclairé ce côté-là. Si toutes ces personnalités ont joué leur rôle, on doit se retourner maintenant vers qui? C'est là aussi qu'il faut chercher à savoir si réellement l'information était remontée plus haut ou pas. Plusieurs écoles, vous l'avez noté, plusieurs écoles au Togo sont dans le même cas. Est-ce qu'on va dire que toutes ces écoles, au niveau de toutes ces écoles, l'information n'est pas remontée? Est-ce qu'on va dire que l'autorité n'est pas au courant de l'état de beaucoup d'écoles dans ce pays?
L'ami Johannes, je vous le concède, vous avez en partie raison, mais ce que nous souhaitons, c'est que chacun à son niveau fasse son travail. Si les autorités locales avaient remonté et que le ministre est resté inactif, hein, nous en parlerions. D'ailleurs, à l'endroit du ministre, nous avons une fois parlé de l'école 13 janvier dans ce studio. Nous avons beaucoup parlé de l'école de Djokalegba, on a parlé de l'école d'Abatame et bien d'autres. Sur tous ces sujets-là, nous attirons l'attention et que chacun, à son niveau de responsabilité, fasse son travail. Merci, Komla Johannes. L'auditeur suivant, bonjour.
Komi. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous m'avez demandé de revenir sur les sujets, mais vous n'avez pas débattu.
Mm-hmm.
Donc, je le garde au bon moment.
OK.
Et la première question, quelle est la situation de votre frère Francisco? Deuxième préoccupation, M. Tchangao nous disait qu'on a des avancées au niveau du port. Quelle est la contribution de ce port en matière de chiffres à l'économie nationale pour qu'on puisse continuer à le féliciter? Maintenant, pour mes interventions, je commence avec les établissements scolaires. Je termine avec le dernier sujet dont vous avez parlé. Nous avons 4 cimenteries qui font du chiffre, qui sont installées par des étrangers dont on ne connaît maintenant les noms. Mais tout est à croire que l'université de Dacha, qui n'est pas encore construite, est félicitée. Comment peut-on comprendre qu'on a 4 cimenteries et on a des bâtiments qui s'écroulent sur les enfants? On ferme un lycée à l'entame d'une rentrée scolaire. C'est ça. C'est ce qui nous écœure. On ne peut pas avoir les cimenteries qui permettent à ce qu'on continue à bétonner la présidence et que les enfants n'ont pas de local pour étudier. Je pense que dans les années à venir, nous allons transformer la présidence qui est au niveau de Gadjepé en allant vers la gauche, ou bien le domicile des députés, des ministres en école. ça, je vous assure ça.
Merci, Comi, que chacun fasse comme il se doit. Oui, finissez, Comi, oui.
Pour suivre l'économie, vous dites que les gens vont à l'extérieur. Non, nous allons vider les villages parce qu'il n'y avait pas de lycée dans nos villages. C'est ça, la grande difficulté maintenant à Lomé. S'il y avait des lycées dans nos villages et des universités, vous auriez pu comprendre qu'il y en aura la décentralisation et on ne va pas vouloir quitter par le taux visa. Merci.
Merci, Comi. Mais aujourd'hui, presque tous les villages, déjà 2-3 000 habitants, ont un lycée ou un collège étendu. Bon, pour ce qui est de Franco Napokura, rassurez-vous, il va bien. Pas plus tard qu'hier, nous avons échangé. Et puis le vendredi dernier, Francisco Napokura a été reçu dans la délégation du PPT la haute autorité de l'audio et de la communication. Bon, pour les cimenteries et autres questions de l'économie, notre travail, c'est de tout dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, mais également nous informons sur les petits pas que nous faisons et qu'il est quand même important de ne serait-ce que prendre note ou prendre acte. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, M. Stassane.
Oui.
C'est Madame Immaculée.
Madame Immaculée.
Oui.
Ah, vous êtes la bienvenue.
Merci à la table. Mm-hmm. Et pour ce qui est, je voulais intervenir au niveau de nos écoles.
Madame, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur.
Oui. Mm-hmm. Je voulais intervenir au niveau de nos écoles. C'est un peu dommage. J'ai appris ce matin, votre collègue était en train de dire que tout le monde n'a qu'à contribuer. Oui, les gens veulent contribuer. Mais M. Stas, moi-même, je suis dans une organisation. On a demandé à intervenir dans 5 établissements à Lomé ici. Mm-hmm. Dans le cadre du lavage des mains. Il y a une journée internationale du lavage des mains.
Oui.
Donc, on voulait donner des seaux, des gobelets, du savon et puis du chlore. Pour 5 établissements, école primaire. Mm-hmm. On a fait les procédures. Mais M. Sass, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à la dernière minute, le directeur préfectoral nous envoie une lettre pour nous dire que c'est déjà dans le programme du gouvernement. Entre nous, est-ce que le gouvernement a une fois donné des sous, des gobelets? Ce n'est pas les élèves même qui cotisent 510 francs pour acheter des sous et des gobelets et de mettre le dedans.
Autrement dit, vous voulez faire une action, mais qu'on vous a empêché, c'est ça?
On nous a empêché. Mm-hmm. On a été obligés. Les directeurs ont été obligés de faire appel à l'association des parents d'élèves, le directeur, et puis faire une délégation. Et maintenant, ils se sont déplacés vers notre organisation pour venir prendre les choses au bureau. C'est dommage. Mm-hmm. C'est dommage.
Cela pose le problème un peu de l'excès de zèle auprès de certaines personnes.
Vraiment. Ce qui veut dire que ça dit que quand vous n'êtes pas du même bord, mais est-ce que... Qu'est-ce que nous allons faire avec tout
mais
ça?
Nous sommes du même bord, le Togo, Madame Immaculée.
Le même Togo. Et maintenant, si un directeur préfectoral se permet d'envoyer la lettre, une lettre, hein, c'est pas qu'il a appelé, mais il a envoyé une lettre. La lettre est toujours là. Que non, c'est déjà dans le programme du gouvernement. Moi, je suis née à Lomé, j'ai grandi à Lomé, j'ai fréquenté ici. Mes enfants ont fréquenté. En aucun cas. Le gouvernement n'a jamais donné cette chose-là dans les écoles publiques, comme à Béton primaire.
Merci, Madame Immaculée, pour ces témoignages qui dit tout. Merci au suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Kotigaou.
Oui.
Benoît Dagoué.
Bon,
je n'avais pas suivi votre émission, mais l'intervention de Maman Immaculée tout à l'heure m'a fait réfléchir. Mm-hmm. Ce n'était pas dans le programme du gouvernement. Mais c'est ça, je le dis toujours, hein, je le dis toujours. Là, il faut qu'on s'appelle. Vous voyez, on veut faire, nous les Togolais, mais on veut s'entraider. On dit que comme ce n'est pas dans le programme, on doit avoir la même direction. Ce n'est pas dans le programme du gouvernement, donc on va rester les bras croisés, ou bien on va donner ça au gouvernement, et c'est le gouvernement qui va prendre nos dons pour aller donner au nom du chef de l'État, bien en quel nom? Merci.
Je vous en prie. Bon, merci beaucoup, l'ami Benoît Dagouet. Le suivant.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Canal FM?
Oui, oui, vous êtes sur Canal FM.
D'accord, c'est Justin.
Justin?
Oui.
Vous nous appelez de?
Lomé.
Le quartier?
Hôpital, Tokoy Hôpital.
Ok, nous vous écoutons.
C'est à propos de le fait que les jeunes sont en train de partir hors du pays, là.
Oui.
Oui. Je vous dis que, sincèrement, les jeunes ne trouvent pas à travailler. Mm-hmm. Il n'y a pas de travail au Togo.
Oui.
C'est pour ça que les jeunes cherchent ailleurs.
Oui.
Vous imaginez que des jeunes qui travaillent dans une entreprise pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans être embauchés, mais leur salaire est toujours le même depuis très longtemps.
Oui.
Donc vous imaginez qu'au Togo, là, c'est vrai que les barons, là, ils disent que tout va bien. Ils disent que tout va bien, mais en réalité, il n'y a rien qui va. Hein? Ils n'ont qu'à bien faire leur statistique. Non,
l'ami, hein, Justin, je puis même vous dire que c'est même les plus grands, les grandes personnalités du pays qui en souffrent. Parce que quand leurs enfants même reviennent de l'étranger, ces enfants sont obligés de repartir parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer au pays.
Ah,
c'est un problème ça, national.
Non seulement ça aussi, mais s'ils arrivent même à trouver une place ici, c'est qu'ils prennent la place de ceux-là qui sont là depuis très longtemps et qui ne trouvent pas du travail. Hein? Vous oui. imaginez ça? C'est parce que nous, on est là depuis très longtemps, on travaille. Et aujourd'hui, on nous dit que le pays va bien. C'est vrai que le pays va un peu mieux. Mais qui travaille? Quels sont ceux-là qui travaillent? Ils travaillent, mais sans être payés comme cela se doit.
Oui.
Voilà. Donc, quelque part, il y a trop de tricheries.
Merci. Hein? Merci.
Trop de tricheries.
Qu'il faut corriger. Merci. Le suivant en ligne, bonjour.
Oui, c'est Johannes qui revient.
Oui.
Et j'avais un deuxième point à soulever concernant ce que vous avez évoqué par rapport aux pharmacies à l'intérieur du pays.
Oui, les pharmacies qui manquent dans certaines localités.
Effectivement. Mais sauf qu'il appartient à l'État en premier d'inviter les pharmaciens à pouvoir s'établir dans ces localités. Parce que, avant tout, c'est les pharmaciens sont des privés. Hein. Ce sont des privés.
Mm-hmm.
Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à s'établir à un endroit où il ne va pas avoir du chiffre d'affaires.
À moins qu'il y ait une politique incitative de l'État.
Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est à l'État d'intervenir en premier lieu. Et c'est pour ça même que, dans ces localités-là, il appartient, avant même de voir lui du côté des pharmacies, il appartient à l'État de doter les centres de santé de points de vente de médicaments
mm-hmm.
que l'État gère personnellement. Et les pharmacies vont venir en appui. Vous voyez, c'est ça. C'est la même chose au niveau des stations de service. C'est avant tout les privés. Au niveau des pharmacies, les pharmacies peuvent être incitées. Par exemple, on peut dire que le déplacement des produits vers les pharmacies à l'intérieur sera gratuit. L'État va assurer le déplacement.
Mm-hmm.
Ça, c'est une mesure d'incitation.
Merci. Il y en a plusieurs. Merci c'est beaucoup, Johannes. Vous êtes gentil. Vous allez laisser la place au dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est ici.
Ici.
Oui. Mais est-ce que vous comprenez là-bas, là? Pourquoi nous devrions vivre l'enfer à éternel dans ce pays? Hein? On débat de tout ça, de tous ces problèmes.
Et si le Togo est quand même loin d'être un enfer? Nous avons des problèmes, mais le Togo n'est quand même pas un enfer, madame.
Le Togo est un enfer.
Ah, pour vous?
Le Togo est bien un enfer. Hein, parce que on n'a pas de travail et puis les gens cumulent et puis on nous prend pour des caves quoi. Hein, il y a rien qui marche. Et puis voilà. Et vous avez parlé de travail, liberté, patrie, tout ça là.
Nous n'avons fait que rappeler la devise du Togo.
La devise, oui. Le travail est où? Hein? Lorsque les gens se lèvent, ceux qui nous gouvernent, comme ils ont traîné trop longtemps, ils se prennent pour nos dieux. Et il y en a qui se lèvent, qui ferment 300 écoles. 300. Mais c'est quoi, Niato?
Et si nous avons expliqué les raisons qui ont motivé le ministre à fermer ces écoles.
Les écoles publiques sont communes.
La preuve, nombre de ces écoles-là ont corrigé et ont été réouvertes. Oui.
Les écoles publiques-là, c'est climatisé ou pas? Est-ce qu'elles sont climatisées? Elles sont dans des états lamentables, non? Lamentables. Et maintenant, on nous ferme tout, et puis,
Merci. Et si nous avons également indiqué au ministre Kokoroko qu'il y a également du travail pour remettre certaines écoles publiques au niveau pour que ce ne soit pas perçu comme une politique de deux poids, deux mesures. Harry Miaou, je crois un auditeur, c'est l'ami Komi. Il t'a un peu interpellé sur la contribution du port à l'économie nationale.
Non, mais je crois que quand on dit que le port autonome de Lomé est le deuxième, par exemple en Afrique, ça veut dire que quelque chose de particulier se fait par rapport à l'économie du pays. Le trafic qui monte et tout ce qu'on fait, je crois que quand le port reçoit toutes les devises qui rentrent, c'est au trésor public qu'il verse. Je ne peux pas rentrer dans le fond de la comptabilité de ce qui se fait au niveau du port par rapport au trésor. Mais je crois que une fois que le trafic monte, c'est quelque chose de bien pour notre pays parce que c'est le trésor qui...
On ne peut pas dire que le dynamisme du port doit nécessairement impacter
sur
les autres secteurs
le
de
quotidien de nous tous. Oui.
Merci. Alors tu as la parole, tu la gardes pour ta minute de commentaire, peut-être à l'endroit d'un auditeur ou bien une idée qui te tient à cœur à toi-même.
Non, bon, je voudrais plutôt profiter de ce micro pour attirer l'attention des gouvernants de ce pays de ne pas attendre. On vient de commencer la rentrée. Il y a des signaux qui sont très alarmants par rapport aux écoles dans les profondeurs du pays. Il faut que tout le système rentre en branle pour que les uns et les autres puissent faire rapidement le rapport de ce qu'ils voient sur les lieux des études où les enfants vont tout le temps et régulièrement pour apprendre. Il faut remonter les informations pour que des dispositions puissent être prises à temps pour éviter ce que nous avons connu.
Autrement dit, au-delà de l'école, que tous les agents du terrain adressent des rapports sincères à l'autorité pour aider les autorités à prendre les décisions les plus idoines. Merci. Didier Komi, à son
point. Et je reste dans la même logique. Ce que nous avons dit ici et ce que nous avons l'habitude de dire, c'est toujours attirer l'attention de l'autorité qu'il y a telle situation qu'on peut améliorer. On salue ce qui est déjà fait, mais tous nous rendons compte que quand on parle d'un certain nombre de secteurs, sinon, pour ne pas parler de tous les secteurs, beaucoup reste encore à faire. Et surtout, il faut des fois que les autorités instruisent les agents de terrain à beaucoup plus de sincérité. C'est pas parce que tel cherche de la promotion ou veut plaire au ministre ou à tel préfet et qu'il faut ne pas dire la vérité. Si on continue dans ce sens-là, on va continuer à enregistrer de ces drames-là, et c'est toute la nation qui va continuer à pleurer. Soyons sincères, faisons le travail pour lequel on a été recruté, qu'on dise les choses telles quelles. Ça permettra, à mon avis, à l'autorité de pouvoir bien gérer les situations. Ce n'est pas que quand on va dire, par exemple, que l'école de Ngobo n'est pas dans un bon état, que on est en train de critiquer la politique du chef de l'État ou que les gens ne travaillent pas pour, l'émergence de telle ou telle entité. Mais c'est de faire l'état des lieux des situations pour que nous évitons de ces drames-là qui ne donnent pas une bonne image du Togo à l'extérieur.
Autrement dit, ne pas faire la politique de l'autruche.
Voilà.
Appeler un chat.
Naturellement.
Encore une fois, si on fait un rapport fidèle, ou bien on fait une critique sincère à l'autorité, cela lui donnera les moyens d'appréhender la situation à bon escient et de corriger.
Je crois que ce que voudrais dire, tu as su bien résumer, c'est de dire que l'autorité ne s'attende pas à écouter toujours des choses très agréables à l'oreille, mais d'être là et de voir, des fois, regarder la réalité en face et de pouvoir faire face pour régler, comme ce qui est arrivé, par exemple, on a aujourd'hui pris la décision de fermer provisoirement le lycée de 2 février et tout le monde a salué ça. C'est déjà un des états des lieux qui ont été faits et de façon sincère, ça a permis aujourd'hui à l'autorité d'éviter une situation qui pourrait se produire, qui malheureusement s'est produite en Ngobo.
Merci. Comme disent les militaires, c'est le terrain qui commande l'action. Si les faits méritent qu'on s'en félicite, on le fera. Mais si les faits méritent qu'on dise à Monsieur le ministre qu'ici ou là, ça ne va pas, c'est notre devoir également de le faire. Jacques Laya.
Non, je suis d'accord avec vous. Vous savez, je voudrais également interpeller solennellement le président de la République par rapport aux entreprises togolaises. Vous savez, il y a certaines entreprises en BTP depuis 5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, qui n'ont même plus soulevé un tracteur. Ils n'ont plus de travail. Au moins, vous savez, il y a quand même cette puce rurale aujourd'hui qui existe. On pouvait quand même attribuer cette puce rurale à ces entreprises pour pouvoir mieux respirer. Mais ce que nous constatons, c'est que avec des puces rurales également, on va chercher encore des entreprises ailleurs pour venir travailler étrangères. Quand même, il faut...
Et nous sommes dans le mois du consommer local. Nous sommes en octobre.
J'invite sincèrement le chef de l'État à revoir effectivement le cas de ces entreprises togolaises en BTP qui sont là des années, qui ne font plus rien. Au moins les puces rurales qu'on est en train de tracer un peu partout dans le pays, qu'on puisse octroyer ne serait-ce qu'un marché à ces entreprises.
Je suis d'accord. Mais quand on aura fait ça là, il faut que les entreprises également aillent travailler.
Oui.
Parce que certaines entreprises, dès qu'ils ont le marché, soit on va acheter une grosse voiture, ou bien on change d'appartement, on va louer une grosse maison, non. On se prend une grosse maîtresse, et c'est le travail sur le terrain qui en pâtit. Ça aussi, il faut le dire.
Non, ça, vous avez parlé du suivi. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en octroyant, par exemple, le marché à ces entreprises, qu'on fasse le suivi. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus se lever comme ça pour donner un marché gré à gré. Vous comprenez? Même si on donnait un marché gré à gré, il faut également
le suivi. Merci. La semaine est lancée. Nous souhaitons à nous tous un bon mois de rosaire pour les apprentis chrétiens catholiques, comme Maurice Daoukou-Péré l'avait dit. C'est le mois de consommer local, au moins pour ce mois d'octobre. Faisons la promotion de ce que nous produisons au Togo, à commencer par le président de la République. Et puis, également,
Il peut nous donner une interview.
C'est le mois d'octobre rose. Hein, les femmes, et puis nous, qui sommes les frères, les maris, les amis des femmes, accompagnons-les dans cette lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous demain, mardi, à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.